Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 552 du podcast Touchdown Actuel. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour parler NFL une nouvelle fois et débriefer la 13e semaine de la saison NFL 2022, déjà 13 semaines. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Le retour de Grégory Richard.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Je sais pas pourquoi je suis parti.
Moi ça me va.
Excusez-moi, j'étais en stress depuis le début de l'intro parce que je ne voyais pas mon micro qui modulait dans le logiciel, donc j'avais peur de ne pas être enregistré. C'est pour ça que j'étais en panique. Grégory Richard, comment ça va?
Ça va très bien. De retour justement, hein, parce qu'on était dans l'erreur et très content de reparticiper au débrief. Donc voilà, je sais pas si tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui vont m'enthousiasmer, mais bon.
C'est exactement ce que j'avais demandé. Je me disais, tu es content de revenir parler d'Atlanta, quoi.
C'est ça. Alors là, franchement, si vous saviez, j'en ai gardé sous la pédale pendant toutes ces semaines.
Très bien. On va parler d'un duel à distance dans la NFC Est, d'un match nul et de match très très nul. C'est le débrief de la semaine 13.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence ce débrief de la 13e semaine avec le match entre les Eagles et les Titans, 35 à 10 pour les Eagles de Philadelphia. A.J. Brown qui se rappelle au bon souvenir des Titans en leur collant 119 yards et 2 touchdowns sur le nez. Tennessee qui est resté dans le match un quart temps. Ensuite, ils ont été complètement lâchés, ils n'ont même pas marqué en deuxième mi-temps. Grégory, allez, honneur à toi pour le retour. Est-ce qu'on a vu les limites de cette équipe des Titans quand ils affrontent quelque chose de quand même beaucoup plus solide et complet?
C'est vrai que là, en deux semaines de suite, face aux Bengals et aux Eagles, en tout cas, on a vu en effet... Alors... Je vais pas dire qu'on en doutait pas beaucoup parce que ce serait un petit peu présomptueux malgré tout. Encore une fois, on a vanté le travail de Mike Vrabel ces dernières semaines et je pense que il y a une préparation qui allait bien au-delà du simple plan de jeu qu'on voulait bien résumer. Mais c'est vrai que voilà, malheureusement, on va être dans une configuration du côté de Tennessee encore plus cette année manifestement où si Derrick Henry est dans un bon jour ou en tout cas a les éléments autour de lui qui lui permettent de briller, ça va bien se passer pour Tennessee. Et ça va être beaucoup plus compliqué quand il va être muselé. Et là, en l'occurrence, ça fait deux semaines de suite que c'est le cas. Contre Cincinnati, ça s'était pas joué à grand chose. Là, globalement, même si Tennessee a tenu dans un premier temps, il y a eu quand même deux classes d'écart entre les deux équipes, notamment parce que la défense a annihilé le running back adverse.
453 yards pour Philadelphie, 209 seulement pour Tennessee, 26 first down à 11. Raphaël, domination totale. Si tu bloques Derrick Henry, c'est fini. On peut résumer à ça. 11 courses, 30 yards.
Oui, on peut résumer à ça. En tout cas, pour le moment, cette saison, et en vrai, je suis pas bien certain qu'ils trouvent une autre solution dans les 3-4 semaines à venir. Je vois pas tellement pourquoi. Mais oui, ça ressemble à ça. C'est un plan de jeu. Après, comme dit Greg, hein, c'est pas non plus totalement nouveau dans le sens que ça fait quand même 3-4 ans que l'attaque de Tennessee est d'abord basée sur Derrick Henry, sur des play action de Ryan Tannehill
Ou en tout
et
cas
on
sur
voit.
du jeu au sol, si tu me permets, parce qu'on était
Oui.
très inquiet pour la blessure d'Henry en fin de saison régulière l'année dernière. Il y a un système offensif
Ouais.
qui est bien calibré, mais c'est vrai que sorti de ça, c'est compliqué de trouver des solutions.
Il aurait peut-être fallu garder Donta Foreman pour avoir une sorte de one-two punch.
Ouais, peut-être. Sincèrement, cette saison, il y a eu un ou deux matchs de Hillard aussi pas trop mal de mémoire. Je suis même pas sûr que le problème soit tant Donta Foreman ou pas de 1 bis, on va dire, que juste un schéma qui, quand la ligne offensive est totalement dominée et qu'elle ouvre pas de brèche, bah en fait ils ont plus d'armes. Ils ont laissé partir A.J. Brown contre Treylon Burks, qui sera peut-être un très bon receveur à l'avenir, mais qui pour le moment est un rookie encore.
Ouais, puis là, il a pas de bol, hein. Il prend un KO sur sa
Oui,
première
là en
réception,
plus
donc.
il prend le KO sur la première réception. Il a eu quelques problèmes aussi en début de saison. Enfin. Voilà, donc ils ont pas vraiment de jeu aérien, et quand le jeu au sol est bloqué, bon, bah, ouais, c'est ce qui se passe.
En vrai, c'est ça la différence avec l'année dernière. De toute façon, c'est que quand Henry est bloqué, bah, le mec qu'ils avaient, c'est A.J. Brown, il était en face. Et tu vois la différence, c'est enfin, il y a plus de solution dans les airs. Encore une fois, Treylon Burks, bah, une réception, un touchdown, mais malheureusement, il se fait mettre KO. C'est assez terrifiant d'ailleurs, hein, sur les images. Mais c'est ça, en fait, non, Greg, qui leur manque, c'est des receveurs de qualité.
Ben, je pense que le domaine aérien, en règle générale, est quand même assez inquiétant, je trouve, du côté de Nagil. C'est-à-dire que, offensivement, oui. Alors après, on sait que c'était un pari qui était forcément pris par Don Robinson en se séparant d'un receveur pro-bowler pleinement établi pour éventuellement pouvoir partir sur une sorte de renouvellement. On voit que Tennessee arrive bien à le faire, mine de rien, de rajeunir globalement l'effectif sur certaines positions pour avoir du salary cap, ou en tout cas avoir une certaine marge de manœuvre pour développer certains postes à besoin. On a vu qu'il l'avait bien fait notamment pour le pass rush, c'est ce qui leur permet d'aller chercher Ben Dupree par exemple. Mais c'est vrai qu'offensivement, il y a ce rajeunissement en effet qui fait que bah dans les nombreuses équipes qui ont des petits soucis de vraiment de receveur numéro un, de top superstar dans ce domaine-là, bah Tennessee figure parmi ces équipes-là. Et puis je me permets juste d'anticiper, je suis désolé de le faire, mais c'est là où on voit aussi que sorti du front seven du côté de Tennessee en défense, le backfield défensif, bah, notamment sur les extérieurs, c'est là où on voit que la jeunesse peut être tributaire également dans ce genre de situation, parce que le talent d'A.J. Brown, il est incontestable, mais là, malheureusement, il n'y a jamais eu aucune solution trouvée sur l'ensemble du match, quel qu'ait été le defensive back face à Brown dans cette partie.
Bah, Brown et Devonta Smith, parce qu'en fait, ils sont
Oui,
tous les
aussi,
deux
bien
au-dessus de
sûr.
100 yards. Hein. Il y a trois
Tout à
touchdowns
fait.
à eux deux, 221 yards à eux deux, trois touchdowns. Enfin, domination totale, clairement, dans les airs. Très, très grosse force de frappe. 29 sur 39, 380 yards, trois touchdowns pour Jalen Hurts. Raphaël, course au MVP.
Oh, pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est assez. Enfin, il est la pièce maîtresse parce que c'est le quarterback d'une équipe qui a 11-1. Donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi on chipoterait en disant qu'il ne peut pas être en course. Je ne pense pas qu'il l'est. Et pour moi, enfin, ce n'est pas le MVP pour le moment. Mais qu'il soit en course et que des journalistes puissent être tentés de lui donner une voix par-ci, par-là, moi, ça ne me choque pas. Enfin, comme on l'a dit. Il conduit cette équipe, il fait très peu d'erreurs cette saison. Là, c'est un match quasi parfait. Franchement, il a fait très bien tout ce qu'il avait à faire, sans utiliser son arme au sol, parce qu'il fait que 5 petites portées. Voilà, tant mieux en plus hein, que sur certains matchs, ils n'aient pas besoin de l'envoyer au charbon au sol pour aussi ouvrir un peu la boîte, j'ai envie de dire. Donc non, non, il est plutôt impérial quand même en cette saison. Donc oui, pour répondre à ta question.
Greg, Jalen Hurts, MVP.
Ça me paraît indéniable dans le sens où, en plus, ces deux dernières semaines, c'est assez symptomatique. Philadelphie bat Green Bay la semaine dernière avec le jeu au sol dans lequel a été pleinement impliqué Jalen Hurts. Et là, cette semaine, il gagne avec un jeu de passe pleinement établi où forcément Jalen Hurts a été totalement impliqué. Donc, certes, il a peut-être pas l'impact. Alors, je sais pas quels sont les noms auxquels pensait Raph, mais forcément, il y a un Mahomes, par exemple, qui va venir en tête. Peut-être un Josh Allen à Buffalo. Enfin, il y a quelques exemples, en effet, où il y a, oui, des playmakers qui vont avoir peut-être un rôle encore plus important dans leur attaque. Mais concrètement, voilà, Jalen Hurts, on n'est clairement pas dans un rôle de game manager. C'est un joueur qui, quel que soit le plan de jeu offensif adopté par l'équipe, est capable de faire briller les joueurs autour de lui. Donc ça mérite pleinement une mention pour le titre de MVP en fin de saison vu la fiche des Eagles.
On reste dans les leaders de la NFC Est avec les Cowboys 54 contre les Colts 19. Les Colts qui se sont accrochés un moment, mais ils ont complètement explosé dans le dernier quart en perdant 4 ballons et en prenant 33 points. C'est dur pour Indianapolis, mais c'est logique, on peut dire quand même peut-être, Raphaël, face à cette défense, ça allait finir par craquer pour une équipe qui reste quand même très très précaire.
Ouais, oui, on pouvait effectivement s'attendre à ce qu'Indianapolis finisse par craquer. Déjà, les voir à la fin du troisième quart-temps aussi proche au scoring n'était pas forcément donné. Donc, les faiblesses qu'on a vues toute la saison, la ligne offensive, les mauvaises passes de Matt Ryan, que tout ça finisse par exploser et se voir, c'est pas la, comme tu dis, face à une défense de Dallas qui est très opportuniste, qui est pas forcément la plus forte en termes de scoring ou etc., mais qui, par contre, pour aller shipper des ballons et depuis deux saisons, hein, quasiment une des meilleures de la ligue dans ce domaine-là. Donc oui, pas encore une fois, pas étonnant, mais c'est normal. Finalement, on arrive en semaine 13, on commence à avoir aussi quelques certitudes enfin sur certaines équipes. Voilà, on sait que Dallas en défense est capable d'exploiter les faiblesses comme la ligne offensive des Colts, quoi.
Greg, Dallas, on parlait des certitudes, c'est solide au sol, il y a 220 yards, c'est solide en défense, ça vole plein de ballons. Et il y a Dak Prescott, 170 yards, 3 touchdowns, une interception. Ça monte en puissance pour Dak Prescott ?
Bah, c'est toujours pareil, j'ai l'impression de voir, encore une fois, je suis pas là toutes les semaines non plus pour le débrief, mais c'est vrai que il y a quand même, je dirais peut-être 2 semaines sur 3, on se rend compte que, bah, mine de rien, Dak Prescott, en effet, il le laisse presque dans du formule pour cette fin de saison, en attendant les joutes du mois de janvier, un peu sur le même modèle peut-être qu'un Odell Beckham, hein, qu'on continue d'attendre du côté de Dallas comme potentielle signature avant les playoffs. C'est sûr que c'est une bonne chose si ton quarterback titulaire, dont on sait qu'il est capable de faire plus, non, encore plus de ce qu'il produit à l'heure actuelle, même s'il y a 3 touchdowns à la passe, enfin il y a pas de choses infamantes dans son contenu, bien au contraire. Donc voilà, comme tu dis, si on est capable d'assurer du ball control, une grosse défense, le one two punch au niveau du jeu au sol, une ligne offensive qui continue de progresser également et qui sera susceptible de laisser du temps justement à Prescott pendant les phases finales. Voilà, globalement, si tout le monde est à l'unisson autour de lui, ça peut être que de bonne augure si on lui met peut-être un petit peu plus de responsabilité sur les épaules ou si on a besoin, en tout cas, à partir du mois de janvier.
C'est un autre débat, mais je fais un petit teasing pour quand il faudra l'avoir, mais je suis pas sûr qu'ils aient besoin d'Odell Beckham. Mais
Jerry Jones ne sera pas d'accord avec toi.
Voilà, on verra.
Du glamour dans le Texas.
Ouais, on verra, mais je ne suis pas tout à fait voilà, d'accord. Les Colts, ça s'enfonce donc au classement, c'est assez logique, hein, évidemment. Est-ce que vous avez vu, je vais plutôt angler comme ça, est-ce que vous avez vu un truc qui pourrait vous faire dire qu'il pourrait être bon dans les matchs à venir ou un élément rassurant, quelque chose, Raphaël?
Dur à dire. En tout cas, offensivement, pas tellement.
Ils prennent que 3 sacs et Matt Ryan est vivant, c'est quand même du positif.
Oui. Oui, non, mais c'est moins catastrophique qu'en tout début de saison.
Oui.
Maintenant, ça reste une équipe moyenne.
C'est sûr que depuis le début de l'année, tu retiens beaucoup plus de toute façon la défense d'Indianapolis. Et je trouve que franchement, défensivement, il n'y a pas grand-chose. Alors, l'affiche n'est pas flatteuse et c'est vrai qu'on retient surtout d'Indianapolis, même dans les victoires, des matchs. On s'est quand même vraiment globalement ennuyé, mais c'est principalement parce qu'il y a eu des errements offensifs. Et généralement, c'était symbolisé sur des matchs. Là, en l'occurrence, c'est symbolisé juste sur un quatrième quart. En tout cas, vraiment maximisé. Mais oui, défensivement, les Colts sont quand même de sérieux arguments et quel que soit le coaching staff ou en tout cas le head coach qui sera choisi pour la saison prochaine, ce sera important de garder une certaine ossature défensive à ce niveau-là.
On continue notre tour de la NFC Est avec les Commanders et les Giants, 20-20, égalité à la fin de la prolongation. Punt, punt, punt. Punt, field goal manqué, c'est le déroulé de la prolongation. Raphaël, j'ai vu qu'il y avait eu des débats hein, avec toi sur Twitter. Alors, il y a eu des débats entre
débats,
le toit.
C'est un grand mot. Mais...
Non, mais je dis, il y a eu un débat entre le toit d'il y a 6 ans et le toit d'actuel. J'ai pas compris quel était le revirement de situation, visiblement, mais apparemment, avant, t'étais pour. Non, j'ai pas tout compris.
Alors, non, effectivement, il semblerait qu'avant, je n'en avais cure d'un match nul. Et maintenant, cela m'énerve. Voilà.
Ah, tu es rentré dans le camp du bien. C'est bien.
Sans doute, ça m'a pris 6 ans quand même, mais alors c'est marrant parce que j'avais plus du tout idée que je pensais ça il y a 6 ans, donc c'est bien aussi de c'est l'avantage de Twitter, ça te rappelle certaines de tes opinions il y a 6 ans.
Alors, je vais te donner, parce que comme là, tu es rentré dans le camp du bien, mais tu es encore un peu soft, je vais te dire où tu en seras dans 6 ans, parce que moi, j'ai une nouvelle idée. Je propose que désormais, en prolongation, il y ait une nouvelle règle. À chaque punt, le coach doit choisir un joueur qui se fait abattre sur le banc de touche, façon Squid Game, tu vois. Comme ça, là, déjà, on verra ceux qui mentent en conférence de presse quand ils disent qu'ils soutiennent leur quarterback, tu vois. Par exemple, quand Brian Daboll va prendre Daniel Jones en premier, on va tout de suite comprendre. Et comme ça, tu vois, déjà, ça limitera un peu les punts, parce que quand tu punts pour jouer le match nul en prolongation, bon, et je suis assez d'accord. En fait, je revenais sur ce que tu disais sur Twitter, c'est que grosso modo, si on accepte les matchs nuls, autant pas mettre de prolongation, quoi.
Oui, bah au final c'est ça, c'est un peu l'argument qui a fini par me convaincre, c'est que si c'est pour aller pour accepter le match nul, c'est un peu, alors comparaison n'est pas raison comme on dit, mais au foot, quand tu dépasses la 90e, là comme vous avez pu voir Croatie-Japon, on décide au tir au but qu'il y a un vainqueur et on reste pas sur une prolongation ultime en se disant bon bah c'est pas grave, ou alors on accorde des points pour un match nul en championnat parce qu'il y a des points pour un
Oui,
match nul,
ouais.
mais on ne fait pas ce système-là un peu bancal, donc. Oui, je suis pour un revirement de règles. Après, je te rejoins sur le fait que les
On
coachs
doit
ont
abattre des joueurs
peut-être.
quand il y a des
Je pensais
punts?
pas forcément à celui-là, mais je pensais au fait que les coachs ont peut-être manqué un peu d'agressivité en prolongation. Bon,
Bah ouais.
ils auraient peut-être pu chercher un peu plus. Bon, après, voilà
Après,
le.
je maintiens le truc du Squid Game. NFL Films en ferait un truc incroyable, hein, en rétrospective de fin de saison. Hein.
Mais. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, si tu me permets quand même, malgré le match nul, hein, je ressors plutôt surpris et étonné par la performance des Giants, que
Oui.
je pensais sur une dynamique descendante, déclinante, face à une équipe de Washington qui arrivait plutôt en forme. Je m'attendais à ce que ce soit une victoire un peu plus facile pour Washington, et au final, bah, pas du tout, puisque c'est un match nul. Donc encore une fois, bah, bravo à Daboll en fait.
En fait, ils ont retrouvé un peu leur identité offensive du début de saison. Non, Greg, là, je te vois hocher la tête dans tous les sens, mais Daniel Jones, 25 sur 31 à 200 yards, on l'a fait être efficace, et il y a 134 yards au sol sur lesquels Jones a participé à 71 yards. Ça ressemble à ce qu'il faisait quand il gagnait en début de saison.
Bah, en fait, je suis pas totalement en désaccord avec ce que dit Raph, parce que, en effet, les dynamiques étaient pas vraiment similaires. Il me semble que le dernier match à la maison des Giants, cette défaite assez surprenante, enfin, c'est le plus trop surprenant maintenant, quand on voit la forme de Détroit, mais c'était cette défaite face aux Lions.
Bah, ils étaient même
Donc,
sur deux défaites, hein. Ils avaient perdu contre les Cowboys aussi avant, et ils étaient même sur trois défaites en quatre matchs. En fait, sur les quatre derniers matchs, ils avaient
Oui,
battu
je
deux
parlais du
équipes.
dernier match à domicile.
Ah oui,
Je parlais du
d'accord.
dernier match à la maison, mais bref, c'est pas le sujet, c'est, voilà. En effet, par rapport à ce qu'a dit Raph, d'un point de vue dynamique, les Commanders avaient quand même plus d'arguments à mettre en avant. Alors après, je suis pas totalement d'accord dans le sens où c'est quand même beaucoup la défense des Giants qui les porte sur ce match-là, notamment le front seven et notamment le premier rideau. Il y a eu deux trois joueurs un petit peu énervés sur ce match-là quand on a mis plein les mirettes à Tyler Heinicke. Après, oui. Donc, encore une fois, pour répondre clairement et directement à ta question, oui, on est revenu à des fondamentaux du côté des Giants, mais en partie parce qu'il y a des armes en effet qui fonctionnent. On a su bonifier le jeu au sol, on a su limiter de nouveau les erreurs de Daniel Jones, hein, ce qu'on pouvait lui reprocher les précédentes années. Après, le panache justement qu'affichait Brian Daboll, ne serait-ce qu'en début de saison, bah là sur ce match-là, c'est là où on se dit que justement ils sont pas totalement sortis de ce doute-là parce que ils mènent quand même, il y a 20 à 13 je crois pendant très très longtemps en deuxième mi-temps. Donc c'est-à-dire que les Giants ils puntent énormément, ils mettent l'adversaire, ils obligent l'adversaire à punter, mais ils puntent aussi énormément. Et sur une séquence de jeu où certes en prolongation t'es à peine à l'entrée de la moitié adverse, tu peux avoir ce truc de te dire bon écoute ça fait quand même plus de 20 minutes qu'on n'a pas réussi à avancer, on va peut-être essayer d'avoir ce petit déclic, d'essayer d'aller chercher ce momentum. Alors, certes c'est à double tranchant et je peux comprendre que derrière Daboll se dit bah il suffit que Washington avance légèrement pour potentiellement tenter un field goal, mais encore une fois voilà, c'est là où on voit que les Giants sont un petit peu dans un entre-deux où d'un côté fallait stopper l'hémorragie et éviter de se mettre en difficulté par rapport à un rival de division. Mais de l'autre côté, où forcément on a une identité propre, mais qu'on continue de laisser de côté un petit peu dans des moments un peu chauds, voilà,
Non mais
de.
C'est sûr que les yards, ils les gagnent beaucoup en première mi-temps. Le touchdown qui marque pour mener 20-13, c'est parce qu'ils ont récupéré le ballon sur les 20 yards adverses sur un fumble. Et derrière, tu le disais, en fait, les séries suivantes, ça fait 3 actions 9 yards, 3 actions moins 5 yards, 4 actions moins 2 yards, 3 actions 0 yards. Et donc, à chaque fois, punt, évidemment, jusqu'à la prolongation. Et la prolongation, ils gagnent 9 yards en 4 actions.
C'est
et
ça.
36
et
yards
est-ce derrière. Qu'il s'est pas liquéfié au moment de se dire, bon, là, ça tourne pas mal, mais attention, parce que c'était pas très, très rassurant. Donc,
bon, match compliqué en tout cas de ce côté-là, et donc match nul. Tu l'as dit, il y a 5 sacks hein, sur Tyler Heinicke, donc il gagne aussi pas mal là-dessus. Washington donc, fait son truc, arrache l'égalisation avec moins de 2 minutes à jouer, un peu au raccro comme ils ont pu le faire. Ils ont aussi eu des bonnes phases défensives par moment. J'ai pas l'impression qu'on apprenne grand-chose en fait sur cette équipe, et puis pour le coup, là, il y a zéro surprise que Ron Rivera soit pas un peu audacieux, quoi.
Non, c'est ça, c'est pas de surprise, c'est le Washington qu'on voit globalement depuis plusieurs semaines malgré tout. En tout cas, costaud sur son front seven et globalement costaud sur son front seven et avec une attaque qui brille de temps en temps par McLaurin et par un jeu au sol assez bien établi hein, avec Robinson Gibson qui forme un bon duo. Peut-être pas le plus performant de la ligue forcément, mais en tout cas qui est suffisamment costaud. Donc, ouais, c'est le match type de globalement le match type de Washington autour de la vingtaine de points. Je
Greg, un dernier mot.
Ouais, il me semble pas que l'affiche était pareille, mais j'ai l'impression d'être revenu 2 ans en arrière avec Washington. C'est-à-dire que tu sais ce que tu peux obtenir sur le moment avec Heinicke. Enfin, en tout cas, t'as une idée à peu près d'une équipe qui peut batailler jusqu'au bout et éventuellement réussir à gagner des matchs justement quand c'est un peu serré. Mais t'as l'impression que même s'ils vont potentiellement en playoff, et qui sont susceptibles, on va pas se mentir, justement, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, de sortir dès les premiers tours. On a l'impression que la reconstruction va continuer tant qu'ils n'auront pas de vrais, vrais quarterbacks. Donc, c'est ça qui est aussi un petit peu frustrant, je trouve, actuellement, du côté des commandants.
Les Buccaneers 17 contre les Saints 16. Les Buccaneers qui étaient menés 16-3 dans le dernier quart-temps. Touchdown de Cade Otton, touchdown de Rachaad White et les voilà vainqueurs. Un match donc où Tom Brady s'en sort encore une fois très très bien, messieurs. Est-ce que c'est Tom Brady qui s'en sort bien ou est-ce que c'est New Orleans qui a encore laissé passer une occasion pour le coup assez énorme? Raphaël.
Pour moi, c'est New Orleans qui se rate complètement sur ce match. À la fois en attaque et en défense. Alors la défense, c'est un peu dur de les casser sur ce match, on va dire ça comme ça, parce qu'ils maintiennent Tampa Bay à 3 points jusqu'à 5 minutes de la fin, on va dire globalement. Donc maintenant, je suis un peu sceptique sur des choix défensifs en fin de match, une couverture très, très soft, enfin, comme on dit, donc, où vraiment ils ont fait le pari de laisser les Buccaneers avancer, mais en même temps de perdre du chrono, où ils jouaient un peu la montre comme ça, mais en laissant Tampa avancer plutôt que de rester agressif comme ils l'ont été tout le match. Bon, choix douteux pour ma part. Et puis en attaque, je pense sincèrement qu'en attaque, ils perdent aussi ce match par manque d'audace. Et je pense notamment à cette 4-2, enfin, où ils sont le drive, où ils mettent un field goal en deuxième mi-temps pour mener 16-3, justement, où ils sont sur les 5 yards de Tampa Bay. Et au lieu de mettre la quatrième tentative, de tenter pour vraiment tuer Tampa Bay, ils prennent un field goal de 12 yards. Bon, enfin 20 yards, pardon. Bon, je sais pas. Je pense qu'à ce moment-là, ils avaient la main sur le match et qu'il aurait fallu clouer l'adversaire au sol et l'enterrer définitivement plutôt que de prendre ce plus 3 points un peu inutile. Et voilà. Donc, à mon sens, Denis Allen perd le match comme un grand tout seul. Mais
Greg, est-ce que Denis Allen a perdu le match tout seul comme un grand?
Ouais, c'est bien, on a commencé avec les Squid Game. Raphaël qui nous parle d'enterrer le match. C'est bien, les mots sont forts, les mots sont choisis et ont de l'impact. Oui, non, je vais pas répéter. Je rejoins ce qu'a dit Raph, notamment dans le sens où, en effet, offensivement, je crois que les Saints sont à 0-3 en zone rouge. Défensivement, ils ont joué leur partition. Alors certes, on dira, oui, il y a 2 drives, en effet, où Brady nous fait du Brady et arrive malgré tout à punir une défense qui au moins une fois par saison depuis qu'il est arrivé du côté de Tampa est capable de lui poser des problèmes. Mais à mon sens, oui, là aussi, c'est offensivement où le bas a posé problème du côté des joueurs de Denis Allen. Et ouais, là aussi, va falloir voir comment on réorganise la question du quarterback parce qu'il n'y a pas beaucoup de pertes de balles de la part d'Andy Dalton globalement. Mais c'est vrai que c'est pas un joueur qui est capable de faire franchir un cap à cette attaque-là. Même si on a une bonne saison de Chris Olave et on va dire une équipe qui reprend peu à peu du poids de la bête.
C'est leur éternel dilemme, hein, de toute façon. T'as l'impression qu'ils peuvent pas gagner, en fait, ce choix. C'est, si Armé Winston, il y aura des pertes de balles. Si Middleton, ce sera pas dynamique. Mmh. Et de temps en temps, il y en a un qui fera un bon match et on dira ils ont fait bien. Et puis après, il fera un mauvais match et on dira il faut mettre l'autre et ainsi de suite. Enfin,
mais c'est sûr que là, le ball control a posé problème en fin de match. Encore une fois, il a des qualités, Andy Dalton. Mais voilà, il y a des choses où tu sais que malheureusement, justement, enfin, encore une fois, je rigolais sur le terme enterré. Mais oui, là, on est vraiment sur le côté. Voilà, bah, annihiler tout suspense, malheureusement, pour l'instant, c'est des choses qu'un Idata n'est pas capable de faire sur la durée. Ouais.
Petit Brady check habituel, 36 sur 54, 281 yards, 2 touchdowns, une interception, un seul sac. Plutôt toujours bien pour un joueur de 45 piges, quand même.
De toute façon, il n'a pas le choix, hein, vu que Tampa Bay a l'air d'assumer de pas courir.
Oui.
De pas courir. Bon, là, en plus, on rappelle que voilà. Il manque Tristan Wirfs et il a quand même été assez bien protégé globalement par sa ligne. Bon, voilà, c'est du Brady comme on le connaît. On sait que, je pense que même jusqu'à 60 ans, hein, s'il a un minimum de temps pour lancer, je pense qu'il sera quand même un minimum précis.
Bon, on dérive et on digresse sur cet article de The Athletic qui dit « Faites attention à la rumeur, à l'idée qu'il pourrait revenir aux Patriots la saison prochaine parce qu'il est en fin de contrat cette année. » Oh là 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 là.
Ah, j'espère pour lui que ce ne sera pas Patricia, le coordinateur offensif.
Oh, je me régale
d'avance. C'est autre chose.
Mais, et, moi, c'est soit ça, avec un retour de McDaniels après qu'il se soit fait virer, soit il va directement dans les bras de McDaniels chez les Raiders.
Ça peut. Bah, un échange non, il n'y aura pas d'échange vu qu'il est free agent. Mm.
Brady avec Davante Adams, Darren Waller, Hunter Renfrow.
Ouais. Ah, ça va nous animer le site encore.
Hein, oh là 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 là. Oh, ça me.
Brady chez les Raiders, ça serait un peu marrant quand on connaît la haine qu'ont les Raiders pour Tom Brady. Enfin, les fans des Raiders de manière générale.
Avec Charles Woodson qui l'accueille à l'aéroport.
Ouais,
mais les fans des Raiders d'Oakland, là on parle des Raiders de Las Vegas, c'est pas pareil.
Pas.
Pas pareil. Rams 23, Seahawks 27, en parlant d'équipe nomade. Sixième défaite de suite pour les Rams qui finissent l'année en roue libre totale, mais en jouant un peu mieux quand même. Ils ont bien embêté Seattle, ils menaient 17-16 au début du dernier quart, ils menaient 23-20 à 3 minutes de la fin. Finalement, Geno Smith a trouvé DK Metcalf pour le touchdown de la gagne à 36 secondes du terme. Est-ce que c'est surtout inquiétant pour Seattle d'avoir eu autant de mal face à des Rams qui sont quand même pas très très bien en point? Non, Raphaël, je dois faire la mouche, c'est la gagne, n'importe quoi.
Non, je réfléchissais. Alors oui, pour Seattle, c'est la gagne qui est importante parce qu'ils veulent aller en playoff et donc cette victoire est à prendre forcément dans cette optique-là. C'est peut-être inquiétant sur la défense, que la défense ait eu un peu de mal à contenir mieux, on va dire, les Rams, même s'il y a quand même ces vols de ballon hein, qui permettent de relancer le match et à quelque part, ils plient mais ils rompent pas, donc c'est pas non plus totalement négatif. Voilà, c'est là-dessus, c'est peut-être sur la défense parce qu'en vrai, encore une fois, je trouve que Geno Smith a fait un super match offensivement. Mmh. Après son interception, c'était limpide, enfin c'était efficace, précis. Donc écoute, victoire peut-être pas aussi bonne que Pete Carroll aurait pu le souhaiter en sortant de bye week, mais pas plus inquiet que ça.
367 yards, 3 touchdowns. En effet, Geno Smith, c'est le. On pensait pas dire que Geno Smith serait vraiment le facteur stable de cette équipe de Seattle. Et en effet, j'ai l'impression que c'est plutôt la défense qui va être un peu le facteur X à chaque match. Puis ce jeu au sol qui a un peu plus de mal quand même sur ce match. Greg, la défense de Seattle, facteur X à chaque fois?
Ouais, alors juste pour. Je me permets de répondre au passage à la question. C'est vrai que ça reste un match de division. Donc, c'est jamais un match évident, quel que soit le contexte à l'extérieur. Et juste pour la parenthèse, on parlait du jeu au sol. Il me semble que Kenneth Walker sort sur blessure. Et voilà, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Seattle a beau drafter des running backs chaque année. Là, très clairement, ils se sont quand même un petit peu, ça les a, je pense, un petit peu pénalisés. Mais en tout cas, Geno Smith fait du Russell Wilson, on va dire, de ces dernières années avec du jeu très vertical et ça profite pour l'instant dans le domaine aérien. Et c'est de bonne augure défensivement, voilà, pour te répondre. Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines. En tout cas, on revoit cette défense de Seattle qui nous inquiète globalement, notamment sur le run stop. Alors qu'en face, du côté des Rams, bon, on fait un peu, entre guillemets, au petit bonheur la chance. On incorpore un peu plus les receveurs sur le jeu au sol. Et puis on se dit, ah bah tiens, ça fonctionne, pourquoi pas. Donc ils arrivent à redonner confiance à des équipes qui n'ont pas vraiment de solution sur le papier. Donc, c'est sûr que ce sera forcément à suivre, d'une part en fin de saison régulière, voire en playoff par la suite, en fonction de ce que, des adversaires qu'aura Seattle.
Pour les Rams, tu fais allusion à Tutu Atwell, qui a eu 4 courses pour 23 yards, notamment.
Ouais, Brandon Powell aussi, hein, il me semble.
Brandon Powell, 3 courses, ouais. 45 yards, en effet. Oui. Et Cam Akers, hein, qui a décidé de se montrer et de marquer 2 touchdowns dans ce match. Bon, il y a quelques semaines, il était brouillé, il voulait partir. Maintenant, il est là, il marque 2 touchdowns. Bon, c'est déjà ça.
Peut-être qu'ils essayent de le remontrer un peu pour essayer
peut-être
d'obtenir un, je sais pas, un sixième.
Peut-être.
On sait que les choix, il n'y en a pas énormément des choix chez les Rams au bout d'un moment de draft. Donc peut-être s'ils arrivent à récupérer un ou deux trucs en fin de draft.
Bon, côté Rams, c'est Bobby Wagner, hein, qui a fait son match. Il était déchaîné, il jouait son ancienne équipe. 2 sacks, 7 plaquages, 1 interception. Il a vraiment donné tout ce qu'il avait là. Donc, félicitations, mais c'est une défaite et ils sont à 3-8. Matt Stafford ne rejouera probablement pas cette saison.
3-9,
quand même. Oui, 3-9, pardon.
3-9.
Mais je vieillis, c'est écrit petit, tu sais.
Détroit s'en frotte les mains d'ailleurs.
Détroit s'en frotte les mains, oui, c'est vrai, c'est Détroit qui a les choix de draft, donc là il se régale en effet. D'autant que Matt Stafford joue même pas, donc ils auront ni le choix ni Stafford, hein, sur la fin de saison les Rams.
Fait.
Donc là c'est.
Et je sais pas quand, je sais pas si Aaron Donald est prévu de revenir non plus, mais c'est vrai que là.
Ouais, là ça.
L'hécatombe se poursuit, hein, tu le disais tout à l'heure, mais oui, en termes de roulis, je pense qu'on est pas mal. Ouais.
Oui, là,
de
c'est
toute
très
manière, récupérer Stafford à ce moment de la saison. Est-ce que ça a vraiment
un
intérêt,
c'est fini.
Tu vois,
c'est fini pour Stafford, c'est fini pour Kupp, même Donald, s'il a encore un peu mal à quoi que ce soit, il faut mieux le laisser. Non, là, c'est très crépusculaire, hein, cette
c'est les vacances, quoi, voilà.
Ouais. Et puis... ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu une équipe attendue comme prétendante être vraiment comme ça en roue libre début décembre, quoi. C'est vraiment là, on est détendu, quoi.
Mais après, si tu peux me permettre, à quelque part, pour eux, pour essayer de rebondir l'an prochain, c'est peut-être mieux d'avoir une saison où un peu cassé par l'ensemble des blessures, on va dire, et tu peux, enfin voilà, où tout le monde se repose un peu, plutôt que d'être très mauvais dans le contenu, mais avec aucun blessé, où là tu te questionnes sur ton coach, tu te questionnes sur beaucoup
c'est
de choses,
sûr.
Là au moins.
C'est sûr, c'est sûr. On va marquer une petite pause et on débriefe tout le reste des matchs.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Alors celui-là, messieurs, il est haut dans le débrief, en tout cas il est en début de deuxième partie, pas vraiment par le contenu, mais plutôt parce qu'il était important dans la course au play-off. Les Baltimore Ravens l'emportent contre les Broncos 10-9. 8 victoires donc du coup pour Baltimore, hein, c'est pour ça que je dis ça, dans la course au play-off. Mais ils ont perdu Lamar Jackson, entorse au genou en début de match. Tyler Huntley s'est lancé dans un concours de médiocrité avec Russell Wilson, hein, puisque maintenant le benchmark pour Russell Wilson, c'est les remplaçants, hein, des équipes adverses maintenant, visiblement. Et il a fait mieux. Tyler Huntley était meilleur que Russell Wilson, c'est ça qui est génial. Il a réussi à aller chercher le touchdown de la gagne à 28 secondes de la fin pour gagner. Le résultat, c'est toujours ça de prime. Alors sur la manière, c'est quand même très très galère du côté des Ravens. euphémisme, bah, Raphaël rigole.
Rire nerveux, rire nerveux.
Je vais le laisser commencer. Alors Huntley, il a 27 sur 32, 187 yards d'une interception, donc c'est pas des longues passes, mais il complète.
Oui, il complète. En vrai, on est un peu dur parce qu'au final, il a dû monter en plein cours de... Alors, Lamar Jackson se blesse rapidement, hein, donc Huntley a eu quand même un peu le temps de rentrer dans son match. Mais malgré tout, il rentre en cours de match. Je pense que c'est jamais facile non plus, et aussi pour le coordinateur offensif, parce que tu n'as pas totalement pu préparer un plan de jeu qui correspond à ton quarterback. Même si Huntley, finalement, a des caractéristiques un peu proches de celles de Lamar Jackson, ils n'ont pas non plus pris un mec complètement différent de Lamar Jackson pour le remplacer.
Il avait déjà joué quelques matchs l'an dernier.
Ouais,
si j'ai pas
où il n'avait pas été mauvais, hein, d'ailleurs.
Ouais, hein, ouais, il avait été bon.
Il
ouais.
avait fait des performances correctes. Donc, l'avantage, c'est que... Et d'ailleurs, offensivement, c'était pas pire que ce que faisaient les Ravens ces dernières semaines. Hein.
Ils sont
restés sur une sorte de niveau très moyen, médiocre, voire même inférieur tout le match.
Ceci dit, face à une très grosse défense. Hein.
Ouais, face à une très grosse défense, de toute façon, on cesse de répéter depuis le début de la saison. Cette défense de Denver mérite bien mieux que le bilan. Si on juge sur la défense, il mériterait bien mieux que ce bilan-là parce qu'ils ont encore été impeccables. Mais là, le problème, c'est l'autre côté du ballon. C'est...
Bon, Greg, pour juste finir sur les Ravens, cette prestation, Tyler Huntley ou pas Tyler Huntley, j'ai envie de dire, il y a toujours quand même pas beaucoup de jeux au sol. Il y a quand même.
Non.
Bon, il y a Demarcus Robinson, Devin Duvernay, Isaiah Likely, Mark Andrews qui se montrent dans les airs, c'est déjà ça, mais le jeu au sol qui était avant leur point fort, c'est en perdition. Huntley est le meilleur coureur d'ailleurs, hein, avec 41 yards. Hein.
C'est quand même une énorme énigme, hein, cette équipe de Baltimore cette saison, parce que on est incapable de savoir. Alors, on va reprendre un petit peu ce qu'on disait sur Seattle tout à l'heure. Et je pense que là, c'est vraiment encore plus le dicton, seule la victoire est importante, parce que voilà, vu en effet le scénario, vu l'adversaire que tu as en face, vu le contenu que tu as proposé, le plus important, en effet, c'est d'aller chercher cette victoire, avec en plus un field goal loupé de peu, je crois, par Doc McManus de l'autre côté, à la toute fin. Donc voilà, l'essentiel, c'est la victoire, mais très franchement, Baltimore nous a un petit peu habitué cette saison à mener les matchs et à les perdre. Bon, là, en l'occurrence, ils ont été menés pendant longtemps face à une équipe qui était largement à leur portée, et ils gagnent vraiment de manière un peu récrac. Mais voilà, pour rejoindre ce que tu dis, c'est sûr que d'une semaine à l'autre, on ne sait jamais quel visage de Baltimore on va avoir, et c'est sûr que c'est extrêmement inquiétant, parce que là, très clairement, le titre de division, il est menacé, hein, avec une équipe de Cincinnati notamment qui reprend du poil de la bête, on en avait parlé hier, tout à fait. Et va falloir voir l'état de santé de Lamar Jackson, mais en effet, il n'y a plus les armes habituellement qu'on pouvait savoir redoutables et létales du côté des Ravens. Donc, hormis Mark Andrews aujourd'hui, je ne sais pas trop quels sont tes principaux motifs de satisfaction offensivement du côté du Maryland.
Jackson, ce serait d'une semaine à l'autre. Il n'est pas impossible qu'il joue le prochain match, mais c'est peu probable. On va voir au fur et à mesure. C'est une entorse du genou, donc c'est très variable en termes de délai. Du côté de...
Si je peux me permettre, là où je trouve que c'est d'autant plus surprenant ce qui se passe à Baltimore, c'est que quand on regarde, par exemple, la ligne offensive dans le run block n'a pas chuté drastiquement de niveau par rapport à ces dernières saisons, dernières années où ils imposaient leur jeu au sol. Ça reste une bonne ligne offensive pour la course. Donc, ils arrivent même plus... Enfin, ils ne profitent plus de ça. Donc, forcément, dans ces cas-là, on a tous envie un peu de regarder vers le banc de touche. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a des rumeurs comme quoi le coordinateur offensif de Baltimore serait... en lice pour un poste en universitaire.
Oui, je crois même qu'il a été pris, ouais, non ?
Non, c'est chaud. Non. Oui, c'est très très chaud avec Stanford, en effet. Mm.
Bon, je me demande si ça serait pas un divorce à l'amiable bénéfique pour tout le monde, tu vois.
Oui, c'est ça, repartir d'une page blanche, la fin d'une ère, tout simplement, pour essayer de dépoussiérer peut-être un petit peu le playbook offensif, ce serait pas forcément déconnant. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur Denver qu'on n'a pas encore dit ? 2 sur 12.
Oui, vas-y.
J'allais dire 2 sur 12 sur troisième tentative. 7 punts. Alors, stat rigolote, ils ont gagné 288 yards sur les punts et 272 en attaque. Donc,
c'est beau. Voilà. Pas mal. Belle stat.
Et alors, un truc, moi, qui me choque, c'est que perdre un match quand tu as autorisé que 10 points et surtout que tu n'as pas perdu un seul ballon, à mon avis, c'est pas un truc qui doit arriver souvent en NFL.
Oui, ils sont à combien ? Ils sont à 2 turnovers à 0, du coup, avec avec les deux interceptions de Simmons.
Ouais.
Donc oui, en effet, c'est une belle prestation globale. Non, que dire de plus, je ne sais pas si on l'a déjà dit, je n'ai pas souvenir de l'avoir dit en tout cas, mais ouais, enfin, un manque d'envie toujours aussi criant. Il y a une action pour moi qui est symbolique, c'est cette fameuse quatrième qui est tentée, je crois, à un moment donné, où Wilson fait un end-off sur son running back. Mais alors, le jeu ultra prévisible au possible, et on se dit, ouais, les quelques fois, en effet, dans un sport où le momentum est clé, les quelques fois où tu peux réussir à prendre vraiment la main et vraiment à imposer, on va dire, ton rythme, enfin, je sais pas les termes que je peux employer, à l'adversaire, bah, en fait, t'es en dilettante, quoi. Et je pense que c'est le principal problème de Russell Wilson, encore une fois, c'est que c'est un joueur dont on pourra pas remettre en cause la carrière globale, mais il est quand même sur les traces de donner l'impression que la dernière année de Peyton Manning était une année All-Pro à Denver.
Waouh, t'es dur.
Non, mais j'exagère parce qu'encore une fois, mais je veux dire, Peyton Manning était pas bon, mais là on est clairement sur ce même niveau de jeu, quoi. Je veux dire,
ouais,
c'est clairement pas un joueur
bah, c'est presque
qui
pire.
Élève le niveau de son.
Oui,
bah, oui, bah, c'est pour
bah,
ça que ça me.
Disons que c'est pire parce qu'on a, lui, il est censé être en bonne santé, lui. Parce que Brady, Manning,
bah,
on
oui,
disait
bon,
la
après,
plus
on
gras, machin.
Oui, enfin, on sait qu'il a accumulé des blessures aussi ces dernières années, Wilson, même si c'était pas le coup comme comme
non,
Peyton
alors,
Manning,
vois...
mais.
Alors, tu vois, après, en fait, moi, je me disais juste un truc en regardant Wilson cette semaine, c'est que, à un moment, j'ai vu, il rappelait son âge, il disait, il a 34 ans. Et je me disais, en fait, peut-être qu'on revient juste aussi à la réalité, parce que les Rodgers et Brady nous ont fait oublier, ça joue jusqu'à 40 piges, machin et tout. Mais en fait, à une certaine époque, quarterback 34 ans en NFL, bah, t'étais en fin de carrière et tu risquais la saison de trop à tout moment. Je sais plus à quel âge étaient les premières retraites de Favre quand il commençait à faire le yo-yo, mais à mon avis, on n'est pas trop loin de ça. Ça devait être
je
autour de
pense,
35 piges.
Peut-être, ouais.
34 ans, à une époque, on ne donnait pas un contrat de 6 ans pour ce 150, 200 millions de dollars, quoi. Et peut-être que, bah, il va peut-être y avoir une normalisation du truc et on va se rappeler qu'à 34 ans, quarterback en NFL, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde d'être top 5. Tu vois, à une époque, ouais, 30... t'étais un quarterback de 34 piges, on disait, oh là là, il est en fin de
oui,
carrière, on va peut-être
il
faire
n'y
un
a rien
200, quoi.
d'infamant, ouais. Oui, dans la, bah, de toute façon, dans la fameuse QV de 2012 dont tu es sur Russell Wilson, il n'y en a plus beaucoup, hein. Il y a peut-être que
Bah,
Tannehill
non.
qui joue aujourd'hui.
Non.
Je
Donc,
veux pas me planter, mais, je sais pas quand est-ce qu'il a drafté Cousins. Peut-être que Cousins était issu de ces drafts-là aussi,
Oui, je crois, ouais.
Mais oui, enfin, je veux dire, en effet, t'as raison, ça reste la normalité. Mais juste pour finir là-dessus, du côté de Denver, ça, on insiste semaine après semaine, mais de toute façon, il va falloir prendre une décision. À mon sens, c'est Hackett ou Wilson. Et les Broncos auront tout
Ah
intérêt.
bah oui,
Sur la même
ça.
logique de ce que disait Raph, par exemple, avec Greg Roman du côté de Baltimore, je pense qu'à un moment donné, on voit que Nathaniel Hackett, pardon, n'arrive pas à apporter ce dynamisme offensif qu'il était censé inculquer en, instaurer, pardon, dans le Colorado. À un moment donné, tu pars sur autre chose, sur une autre mentalité pour voir si vraiment on arrive à développer Russell Wilson comme il faut, un minimum du côté de Denver.
Allez, on enchaîne parce qu'on a déjà beaucoup parlé de cette équipe cette année pour pas grand-chose. Les Raiders 27, Chargers 20. Les Raiders qui s'imposent grâce à un énorme match de Davante Adams, bien évidemment. Alors, ils ont mis du temps hein, à le trouver, Davante Adams, puisqu'il ne voit pas le ballon vraiment sur les quatre premiers drives. Il n'est pas ciblé du tout. Et puis ensuite, ils sont allés vers lui, vers lui, vers lui. 8 réceptions, 177 yards, 2 touchdowns. Finalement, c'était peut-être une bonne idée. Hein. Ils se sont détachés 24 à 13 grâce à lui. Les Chargers n'ont pas réussi à remonter. C'est toujours aussi étrange. On va commencer par les Raiders parce qu'ils gagnent quand même. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire que pas d'Adams pendant 4 drives. Après, Adams à fond. Bon, Josh Jacobs quand même 144 yards. Donc, ils s'équilibrent par la force des choses. C'est-à-dire qu'ils disent on donne tout le temps le ballon à lui d'abord, tout le temps le ballon à lui après. Qu'est-ce qui se passe sur les choix offensifs, là, Raphaël?
Je sais pas non plus. Je sais pas vraiment quelle est cette identité, quels sont les choix. Après, comme tu dis, malgré tout, s'il y a quand même un dénominateur commun, c'est que depuis 3-4 semaines, Josh McDaniels insiste sur Adams et Jacobs. Alors, pas au même moment du match, mais en tout cas, il n'insiste plus que sur eux deux. Et c'est pas plus mal parce qu'ils enchaînent les victoires et que tout ça coïncide aussi avec le niveau d'Adams et Jacobs. Donc, peut-être que c'est pas très équilibré au cours d'un match ou au cours d'une période, mais sur la longueur du match, on va dire, ça trouve un point d'équilibre depuis 3-4 semaines et c'est pour ça qu'ils enchaînent. Ah, donc comment dire, je reste pas convaincu parce que je comprends pas bien malgré tout ce qu'ils font, mais McDaniel, c'est en train peut-être de finir par trouver la solution.
Greg rassuré par il sauve son à minima il sauve son poste.
Oui. Je pense autant Hackett, on voit que c'est mort de chez mort, à mon sens, du côté de Denver, autant du côté de Las Vegas. Oui, ce sera clairement pas une mauvaise chose pour McDaniels, en tout cas, même si contractuellement, c'est pas sûr qu'il l'aurait viré en fin de saison, de montrer qu'il y a un peu plus de vie, ou en tout cas que le vestiaire ne l'a pas complètement lâché, comme on pourrait le sentir, vu les décisions et les défaites d'une courte tête qu'on avait pu voir un peu plus tôt cette année. Pour moi, je vais essayer de résumer ça de manière assez globale. Les tranchées me semblent quand même un peu meilleures du côté des Raiders. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâtonnements pardon, sur la ligne offensive et on voit que malgré tout, notamment au niveau du jeu au sol ces dernières semaines, ça tourne mieux et ça permet aussi à Josh Jacobs de mieux tourner. En effet, c'est vrai sur ces matchs-là, ça peut être vrai sur des matchs de playoffs si les Raiders y vont, ce qui me paraît à l'heure actuelle très hypothétique dans l'AFC. Mais forcément, voilà, il y a la gestion des égos qui a l'air encore peut-être un petit peu compliquée du côté de Josh McDaniels. Ça, c'est quelque chose qui est quand même encore un petit peu frappant et ça se ressent dans l'utilisation de Davante Adams, parce que je pense qu'on veut le solliciter, mais qu'on ne veut pas non plus qu'il soit le seul contributeur offensif, parce que quand il l'est, les Raiders ne gagnent pas systématiquement. Et puis pour terminer sur mon propos sur les tranchées, la O-line est meilleure, le pass rush aussi sur ce match-là est meilleur, et ça fait la différence, notamment avec un énorme Chandler Jones. Ça n'a clairement pas été le cas tout au long de cette saison, mais voilà, c'est une clé du côté de Las Vegas, c'est facile à dire comme ça. Mais en tout cas, on voit en effet que quand Las Vegas se donne les moyens, on va dire, sur des deux côtés de la ligne, c'est une équipe qui peut rivaliser, je pense, avec n'importe qui sur une rencontre.
5 sacs au total pour ce pass rush, dont 3 pour Chandler Jones dont tu parlais. Raphaël, les Raiders gagnent dans les tranchées, ce qui veut dire que les Chargers perdent dans les tranchées. Et encore, j'ai envie de dire, c'est ça le problème avec les Chargers.
Oui. Depuis le début de la saison, effectivement, ils perdent beaucoup dans les tranchées, notamment contre les équipes de bon niveau, on va dire ça. Alors, encore une fois, sur la ligne offensive, peut y avoir quelques explications parce que des blessures, Zion Johnson, etc. Rashawn Slater, on l'a déjà dit. Et on va le redire, mais encore une fois, sur la ligne défensive, ça pose question parce que ils n'arrivent toujours pas à bloquer la course. Alors même si là cette semaine, ça a peut-être été moins pire que les semaines d'avant, mais c'est vraiment pour dire que c'est devenu nul au lieu d'être catastrophique, quoi. Donc c'est pas une grande amélioration non plus, suivant comment on voit le verre, à moitié vide ou plein. Non, mais tu l'as dit, c'est ce problème sur les lignes, ils perdent notamment là-dessus. Ouais, il y a quelque chose qui marche pas à Los Angeles. Quelque chose ne marche pas manifestement.
Eh ben, j'allais te dire, on la voit arriver, Greg, la déception, le pas de playoff, le Sean Payton.
Bon, je sais pas si on va en arriver, à toutes ces éventualités, hein, notamment la dernière. Même si je ne doute pas que Sean Payton chez les Chargers, ce serait quelque chose de très glamour. Je sais pas si le désaveu pour Brandon Staley va être aussi flagrant, surtout qu'il a joué quand même assez abondamment des quatrièmes tentatives, hein, ce week-end, même si c'était pas toujours couronné de succès. Mais oui, malheureusement, ça leur pend un peu au nez aux Chargers, surtout dans cette division qui est assez compétitive. Là, c'est sûr que quand ils vont être au coude à coude, à minima avec les Jets ou les Ravens, par exemple, pour les postes de wild cards, hein, je pense qu'ils vont regretter pendant très longtemps ces défaites assez inexplicables, celle par exemple face à Jacksonville en début de saison. Enfin, il y a eu des matchs vraiment où les Chargers étaient vraiment trop sur courant alternatif et en effet, ils vont s'en mordre les doigts. Après, ils tombent sur une équipe des Raiders qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus dynamique ces dernières semaines. Ça reste là aussi un match central division. Mais oui, il y a une grosse, grosse remise en question malgré tout du côté de Los Angeles à faire.
Je maintiens que Sean Payton fait un petit tour sur le parking tous les lundis matin, voir si la place est libre. Les Lions 40, Jaguars 14, les Lions qui continuent leur remontada. Ils sont à 5 victoires, 7 défaites maintenant. 8 drives sur ce match, 4 touchdowns, 4 field goals, aucun punt. Jared Goff très propre, 31 sur 41, 340 yards de touchdown. Amon-Ra St. Brown est toujours aussi fort, 11 réceptions, 114 yards de touchdown. C'est beau, est-ce qu'on y croit à nouveau? Ou alors est-ce qu'on est sur le schéma typique belle fin de saison, espoir? Et puis pas de playoff et on repère les 5 premiers matchs de la saison suivante.
Bah, je sais pas si on peut parler de réveil de fin de saison parce qu'en l'occurrence ils nous ont fait un mois de novembre quasi irrésistible, hein. Même le match de Thanksgiving perdu contre Buffalo, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas scandale s'ils le récupèrent. Mais là oui, en tout cas on voit une équipe des Lions se transfigurer, alors qu'on aurait pu penser par exemple avec le départ de T.J. Hawkinson, il n'y a pas longtemps.
C'est vrai.
Que justement, du côté de Détroit, on se préparait un petit peu à se dire, bon, bah voilà, on va être top 5 de la draft, on va préparer la saison prochaine, etc., etc., pour repartir sur des nouvelles bases. Offensivement, on voit enfin ce qu'on espérait de voir. En tout cas, là, pour le coup, le regain qu'on voyait en fin de saison dernière, le fameux regain de fin de saison qui pouvait laisser entrevoir de belles choses avant la déception. On est très impatient, je pense que du côté de Détroit, de voir ce que peut apporter Jameson Williams, le dernier premier tour de draft, qui semble enfin remis de sa blessure. Pour l'instant, c'est même pas forcément ultra nécessaire, puisque quand on voit le match notamment de Saint-Brown et de Shark, t'allais rebondir là-dessus.
Voilà. J'allais dire qu'il a joué que 8 snaps pour l'instant, donc ils le remettent doucement dans le bain.
Il a été utilisé avec parcimonie, il y a un jeu au sol qui fonctionne, et on sait que le jeu au sol du côté de Détroit, c'est quand ça fonctionne à minimum, alors c'est pas des stats de. de fabuleuse, hein. C'est juste la barre des 100 yards franchis, mais même du côté de Détroit, historiquement, dès que t'as un match à 100 yards au sol, je pense que tu peux savourer le champagne. Donc, voilà. Non, globalement, c'est extrêmement cohérent. Défensivement, ils ont provoqué les pertes de balles qu'il fallait. Ils ont mis constamment la pression sur Trevor Lawrence au point de le faire sortir sans blessure. Il y a peu de fausses notes, encore une fois. Et voilà. En plus, il n'y a pas de doute sur ce match-là. Il n'y a pas ces fameuses fins de match un petit peu, qui font mal à la tête, comme on pouvait les voir très souvent la saison dernière, avec les déclarations en conférence de presse de Dan Campbell. Donc voilà. Peu de choses à dire de mon côté, du côté de Détroit. Pour moi, tous les voyants sont au vert.
J'aime bien quand Greg dit peu de choses à dire après un tunnel de 2 minutes 30 à chaque fois. J'avais pas grand-chose à dire après ces 3 minutes. Raphaël, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire en soi. La défense, quand même, aussi, petit à petit, prend ses marques. C'est peut-être ça, parce que l'attaque, on s'y attendait, mais la défense, comme le disait Greg, ça a été solide.
Oui, ça a été solide. Après, pour revenir rapidement sur ta question, mais je pense que par rapport à l'an prochain, ça sera le coaching qui fera la différence ou non. Parce que on voit cette année, et c'est pour ça qu'à mon avis, ils arrivent aussi à remonter la pente, c'est que il y a eu des bonnes drafts et il y a du jeune joueur talentueux sur beaucoup de lignes en attaque et en défense. Là, par exemple, sur ce match, c'est le rookie James Houston. Qui se montre avec de mémoire un sac, deux plaquages pour perte, enfin plusieurs pressions quarterback. Donc voilà, ils ont de plus. Et mine de rien, le backfield défensif aussi est beaucoup plus solide depuis qu'ils ont viré leur coach des cornerbacks. Hein. Il y a 5 semaines, je crois, maintenant. Donc la défense a vraiment progressé, en tout cas l'arrière-garde défensive a vraiment progressé. Ce qui laisse sous-entendre que c'est peut-être une histoire de coaching avant tout et que les éléments, en tout cas les pièces du puzzle, ont commencé à être bien mises du côté de Détroit. Et maintenant, il faut juste trouver l'architecte de tout ça. Alors, architecte et puzzle, ça n'a rien à voir, mais peu importe, vous avez compris l'idée conductrice.
Il y a des puzzles en 3D, je crois.
Ouais, voilà, vous avez compris l'idée conductrice derrière tout ça. Donc, moi, j'ai envie d'y croire pour l'avenir. Cette saison, je pense qu'ils sont encore un peu trop justes. Mais pour l'an prochain, en continuant le bon travail de construction d'effectifs, pourquoi pas, quoi.
Ceux qui n'arrivent pas à enchaîner. Peut-être le problème inverse, d'ailleurs, du côté de Jacksonville, on n'arrive pas à enchaîner 266 yards, 3 sur 12 sur les troisièmes tentatives. Alors, victime d'une bonne défense, d'une bonne couverture, en effet, mais peut-être, eux, il manque peut-être encore un petit peu de l'effectif. Il faut peut-être rajouter un petit peu, étoffer. Non, Greg, tu fais des gros yeux. Ou c'est le coaching pour toi?
Bah, le coaching, après, on verra. Encore une fois, c'est la première année de Doug Peterson. J'attendrai peut-être avant d'être sévère, mais ouais, c'est toujours la même chose avec Jacksonville. C'est qu'on a du mal à comprendre vraiment comment l'équipe est construite et qu'il y a des postes, même quand on les pense relativement consolidés ou en tout cas suffisamment, c'est pas le cas. Et là, c'est pareil. Je parlais de Tennessee tout à l'heure, mais dans le domaine aérien, que ce soit la défense contre la passe, ils ont été constamment donc malmenés par les receveurs de Détroit. Et offensivement, il y a des drops qui sont un peu fâcheux. Alors, c'est toujours pareil parce que du coup, n'allez pas penser que du coup je chasse toute responsabilité de Trevor Lawrence. Hein, ça fait partie de ces joueurs, encore une fois, qui doivent franchir un cap. Et malheureusement, on l'a vu beaucoup trop inconstant, même sous pression ce week-end depuis le début de la saison. Mais peut-être qu'avec un casting un peu plus séduisant que Christian Kirk, receveur numéro 1, ça pourra peut-être l'aider un peu plus en ce sens.
Donc ça, tu me rejoins, c'est ce que je disais, faut étoffer un peu autour quand même.
Oui, bien sûr, non, bien sûr. Oui, tout à fait.
Faut quand même. Raphaël, un truc à ajouter sur les Jaguars?
Non, vous avez tout dit.
Bon, Falcons 16, Steelers 19. On
Oh
y arrive.
non.
Les Falcons ont marqué un field goal à un peu plus de 5 minutes de la fin pour se rapprocher à 3 points. Les Steelers ont mangé quasiment tout le reste du chrono. Ils ont juste laissé le temps à Marcus Mariota de se faire intercepter une fois de plus. Défense solide, Kenny Pickett en progrès. On va commencer par les Steelers, comme ça Greg peut prendre un peu d'élan. On va commencer avec ces Steelers, Raphaël. Ils sont jamais ridicules quand même. Ils sont
Non,
toujours là, malgré un effectif pour le coup très limité pour l'instant.
on en parle sur plusieurs équipes. C'est encore une fois à mettre au crédit de Mike Tomlin, qui coach globalement. On lui donne en début de saison un effectif sans aller chercher personne en free agency ni rien. On lui dit, bah, parce que je suis même pas loin d'être persuadé que Tomlin ne regarde pas particulièrement la draft et les joueurs qu'on lui donne à la draft. On lui donne des gars et on lui dit, bah, vas-y, coach. Ah, j'exagère un peu le propos.
J'imagine bien Tomlin qui se lève le matin. Tu sais, alors vous avez pris qui?
Ah, mais voilà, mais je pense qu'il fait clairement partie plus de ses coachs meneurs d'hommes que tacticiens, tu vois, pour le coup. Et donc, ouais, il arrive à tirer le meilleur, en partie le meilleur de son groupe. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, ça, c'est jamais ridicule avec lui. Ça, c'est une certitude. Bon, comme tu l'as dit, l'équipe est en progrès. Kenny Pickett n'est pas du tout brillant, ni excitant, ni rien, mais il est solide. Mais je trouve que finalement, il colle bien à l'image de Pittsburgh hein, et de cette franchise. Hein. C'est pas du glamour, mais pour le moment, c'est solide, c'est un rookie solide. D'ailleurs, à certains égards, je trouve même qu'il me fait penser à Roethlisberger. Alors, je ne sais pas si c'est le... Je sais pas, avec une première saison rookie, pas forcément flashy, mais genre t'es solide et tu montres que sur l'avenir, bah on pourra compter sur toi parce que tu vas être une sorte de rock. Donc j'attends de voir.
En tout cas, moi je suis admiratif du boulot de Mike Tomlin, hein, clairement. Et tu le disais, Pickett, ouais, c'est pas flashy. Il y a 154 yards au sol, c'est peut-être une des différences aussi de ces dernières semaines. Alors, jeu au sol commence à tourner enfin. Ça permet de. Mais il y a un beau groupe en plus, tu vois, Freiermuth, Johnson, Pickens est moins en vue sur ce match-là. Mais il y a des trucs autour de Pickett, il y a du bon coaching, il y a TJ Watt en défense, il y a pas mal de choses. Donc ça gagne. Ils sont à 5-7. Mine de rien, Mike Tomlin a jamais eu un bilan négatif. Il a deux matchs de retard, mais face à des Ravens qui sont en galère la semaine prochaine, derrière, il a les Panthers, les Raiders, rebelote les Ravens et les Browns. C'est pas exclu qu'il arrive à sauver son invincibilité, enfin sa série de bilans non négatifs, en tout cas.
Sa positive attitude.
Voilà, sa positive attitude. Merci beaucoup, Greg.
Je me permets un petit bémol quand même. Calmons-nous un peu sur Pittsburgh quand même. Je pense. Je suis toujours un petit peu.
Ouais, on n'est pas enflammé non plus. Hein,
personne ne s'est enflammé. C'est lui qui
vous n'avez
dit
que
ça,
des bons mots.
Alors,
Donc je me suis dit bon, je vais essayer peut-être de nuancer un peu le propos. Globalement, je rejoins ce qui a été dit. Le plus important, en effet, pour faire écho à ce que disait Raph, notamment sur Kenny Pickett, c'est le fait de limiter les pertes de balles. Ça, c'est le plus important. Et si déjà, en termes de, si déjà, il arrive à être un game manager efficace. C'est déjà une très très bonne chose. Après,
bon, très bien.
ça me permet, je me permets la passerelle, hein, mais l'adversaire en face est faible. Hein.
Voilà, j'allais dire
Voilà.
tout ça pour qu'on retarde l'échéance. Comment ça va les Falcons, Greg?
Bah, toujours aussi bien, écoute. Alors, j'ai eu très très peur. Il y a un moment, j'ai eu très très peur parce que je me suis dit, Marcus Mariota va franchir la barre des 170 yards.
Et non.
Ouh, heureusement, il a repris raison et voilà, non, il est
Alors,
resté à 167.
du coup, semaine de repos, on en profite pour mettre Desmond Ridder, c'est bon?
Bah oui, mais à mon sens, de toute façon, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu vas juger avec un Desmond Ridder que tu vas voir en 4 matchs? Moi, c'est ça qui me paraît un petit peu étonnant. Donc voilà, visiblement, fallait attendre d'être exclu de la course des playoffs parce que de la course aux playoffs parce que c'est bien sûr qu'Atlanta, dans la configuration actuelle, avait un coup à jouer en playoffs. On attendait éventuellement que les chances soient réduites à néant pour tester éventuellement notre quarterback que Mariota. Bon, c'est dommage parce que le jeu au sol a bien repris du poil de la bête en deuxième mi-temps pour le coup. Et revenu un petit peu dans les standards qu'on connaissait habituellement cette saison à Atlanta. Même la défense, voilà, a pas été infamante loin de là, mais il y a trop de limites dans le domaine aérien. Et oui, il va falloir tester pour répondre à ta question. Oui, il va falloir tester Reader, mais je ne sais pas quelle conclusion tu vas pouvoir tirer en fin de saison.
Drake London a pris 6 passes pour 95 yards, ça doit pas être loin d'être son meilleur match. Donc c'est un petit motif d'espoir, tu te dis l'année prochaine avec Reader, avec Kyle Pitts de retour, avec Drake
C'est
London.
sûr. Les 6 sur 12 passes, sur 12 passes lancées et les
Oui.
6 autres pas catchés étaient pas toutes du fait de London. Mais bon, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance.
Allez, le point positif, c'est que vous aviez des beaux maillots rétro avec des beaux casques rouges.
C'est ça, on va s'en contenter. Ouais.
Ça, c'est pas mal quand même. Browns 27 et 114, un match dont l'enjeu était évidemment de savoir à quel niveau le quarterback de retour à Cleveland allait jouer. Bonne nouvelle, il a été nul. Bon, c'est déjà ça, on se réjouit pas trop, parce qu'il va finir par revenir, hein. Il n'y a aucune justice dans ce monde. Mais sur ce match, il gagne grâce à peu près tout sauf à lui. C'est vraiment un drôle de match, hein. 6 points offensifs sur 27. On parlait des incongruités de Denver, mais alors celle-là, elle est un peu étrange aussi. Il y a 14 points de la défense, 7 points des équipes spéciales, 6 points de l'attaque. Donc sur les trois phases de jeu, c'est l'attaque qui en marque le moins. Du coup, il gagne avec 174 yards au sol, mine de rien. Est-ce que ça en fait presque une bonne victoire au sens où tu peux dire, bah du coup, grosse marge de progression vu que Deshaun Watson n'a pas été bon.
Alors, je sais que Houston, c'est l'équipe de Raph, hein, donc je vais le laisser démarrer là-dessus.
Bah là, c'est Cleveland, hein, il joue à Cleveland maintenant.
Ouais, mais du coup, je pense que c'est forcément corrélé. Vas-y, Raph, je te laisse la piste.
Ouais, je serais moins, merci, c'est gentil, mais je serais moins optimiste que toi là-dessus, dans le sens où, comme Greg le laisse sous-entendre, l'adversité de Houston est tellement faible
Ah
que
oui,
ça
là, oui.
permet au jeu au sol d'être bon, que ça permet à ta défense d'être bonne, que ça permet à tout le monde d'être bon, en fait. sauf le quarterback, ce qui est aussi étrange pour le coup, et qui montre à quel point il est rouillé. Mais rouillé, pour le moment, comme toi, je suis pas certain qu'il soit rouillé à ce point-là pendant des années. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc ouais, c'est une victoire que Cleveland devait prendre et ils la prennent en équipe, j'ai envie de dire, mais je ne suis pas sûr que ça permette de se rassurer sur le niveau global de l'équipe qui a été décevant, notamment en défense. Tu vois, là, ils font un bon match en défense, mais face à...
Oui, alors clairement, ils sont sauvés par l'indigence des Texans aussi.
Il suffit de voir le touchdown de Denzel Ward.
Ouais,
Oui,
voilà, quoi.
voilà. Non, mais Houston est abominable. Hein. Ça, maintenant, il n'y a plus vraiment de mots, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du sympathique de Sean Watson, Grégory?
Bah, malheureusement, enfin, j'ai pas eu de surprise en tant que telle parce que déjà on avait vu qu'en pré-saison le manque de rythme avait été assez frappant, hein, une grosse difficulté à trouver des automatismes avec ses receveurs. Et là encore une fois, avec si on reste juste sur le côté purement sportif, oui, après 2 mois sans jouer de nouveau, bah forcément fallait pas s'attendre à des miracles. Ça a pas s'intercepté dans
Deux
la
ans,
end
tu veux dire,
zone.
t'as dit 2 mois, mais.
Non, mais 2 mois depuis la pré-saison, je veux dire.
Ah oui, depuis la pré-saison,
Ouais.
pardon, ouais.
Le fait qu'il n'ait pas rejoué depuis la pré-saison, bah,
Autant
on
pour moi,
voit que
autant
de
pour
nouveau,
moi.
il y a de nouveau une perte de rythme. Son interception, on voit que c'est lancé extrêmement forcé, alors que il y a quand même très peu de chance. Je crois qu'il arrive à atteindre. Je crois que c'est Amari Cooper qui vit sur cette passe. Donc bon, oui, pour rejoindre ce que tu as dit en introduction, oui, je pense que Cleveland va pas tirer des conclusions sur son quarterback à l'issue de ce premier match. Le plus important, en effet, c'était de se débarrasser d'une équipe de Houston, qui sert un peu de paillasson à beaucoup d'équipes depuis le début de la saison. Allez, je pense qu'on peut le dire là. Je vais
Non,
pas
mais
être trop
oui, c'est clair.
sévère, mais voilà, malheureusement,
C'est clair.
ils ont une défense qui essaie de se défendre du mieux qu'elle peut, mais offensivement, c'est bien bien trop faible du côté de Houston pour éventuellement rivaliser à ce niveau-là. Donc voilà, la victoire avant tout, et puis on espère du côté de Cleveland, parce que on parlait de Pittsburgh à 5-7. Je pense qu'on peut dire la même chose pour Cleveland. Si Deshaun Watson, en effet, arrive à vraiment trouver un certain rythme au sein de cette attaque-là, on peut très bien avoir une équipe de Cleveland relativement transfigurée de ce qu'elle peut proposer en défense au niveau du jeu au sol.
Oui, après, la différence, c'est qu'avec la différence avec Pittsburgh, c'est qu'on ne leur souhaite pas.
Écoute, voilà, c'est autre chose, mais ça reste une possibilité, encore une fois, dans une AFC qui est extrêmement compétitive, où tout le monde peut battre tout le monde et du coup nous offrir un classement relativement resserré.
Évidemment. Et tout le monde peut battre tout le monde. On espère évidemment que les Bengals vont massacrer Cleveland la semaine prochaine. Hein.
Ça va te faire mal hein, quand il va gagner après un match à
Ah non, mais
quatre
ça.
touchdowns, ça va
Ah ben
être.
ça va être terrible, hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas se réjouir trop vite. Moi, je veux pas m'emballer. On sait bien qu'il n'y a pas de justice et qu'il va revenir, hein, mais voilà. Donc, alors j'ai vu Raphaël a pas dit le nom. Il y a une politique là-dessus. Moi, j'ai
Non,
arrêté
non, non,
de.
non,
Bon,
non, c'est pas ça.
moi, je l'ai
Non,
fait
je sais
juste pour un
pas. Non.
article parce que quelqu'un m'avait lancé le défi dans le chat en fait du fauteuil. Il
Ah.
m'avait dit ah si t'écris pas son nom dans le résumé du match, j'ai fait ouais c'est pas con, ça relève défi accepté. Mais après, non, on va pas s'exprimer, on s'exprimera plus trop sur l'extra-sportif maintenant, parce qu'il y a un délit d'injure publique en France et que j'ai pas trop envie, quoi, j'ai pas trop envie d'y passer. Donc voilà, mais ça me fait vraiment mal au derche de parler de lui. C'est un sentiment physique désagréable sur cette première émission. J'espère que ça s'estompera un tout petit peu au fur
Moi,
et à
ce qui me
mesure de
rassure,
l'année
c'est que tu aurais pu
prochaine.
en parler à Atlanta. Donc, je suis très, très content que Cleveland ait
Ah
gagné ces
ouais.
enchères,
Ah ouais, les
chères à
pauvres.
mon cœur il n'y a pas si longtemps que ça.
Les enchères de la honte, quoi. C'est vraiment. Bears 19, Packers 28. Les Packers qui sont passés devant à 5 minutes de la fin sur un field goal. Ensuite, ils ont intercepté Justin Fields, marqué un nouveau touchdown grâce à Christian Watson, intercepté une nouvelle fois Justin Fields. Watson, pardon, qui marque une fois au sol, une fois dans les airs. Est-ce que finalement, la clé, ça aurait pas été qu'Aaron Rodgers soit plus sympa avec ses rookies dès le début de l'année? Parce qu'en fait, il est pas mauvais, Christian Watson.
Bah bien sûr que non. Je l'ai dit depuis le début. Enfin, je l'ai dit depuis le
Donc,
début. Genre le mec précurseur, voilà, non mais.
S'il avait arrêté de les traiter comme s'ils étaient Deshaun Watson, par exemple, depuis le début de l'année. Tu vois, parce qu'il les traitait comme des
Oui,
pestiférés.
mais encore, mais oui, mais alors tu vois, alors
Parce que
je veux bien,
Christian
Alain,
Watson,
passer outre.
Christian Watson et Roméo Doudou, il les
Ah.
a traités comme des nazes depuis le début de l'année, et
Roméo
en fait,
Doudou.
ils sont bons.
Non mais moi je veux bien passer outre ton romantisme exacerbé sur la question de Deshaun Watson, que je respecte à 100% et que je partage même, mais tu vas pas demander à Aaron Rodgers de changer du jour au lendemain quand même.
Non, c'est vrai.
T'es en train
C'est
de nous
vrai.
dire ouais, ce serait bien
Non, il y a des
qu'Aaron
limites.
Rodgers,
Il y a des limites.
même sa famille dans des déclarations nous dit que bon,
J'avoue.
visiblement en perso, il est un peu borderline.
Et tu nous demandes que le gars, il caresse dans le sens du poil des receveurs bleus.
Ouais, c'est vrai.
Ils font 2-3 drops par match en début de saison.
J'en demande trop, là. J'en demande trop.
Bon, attaque équilibrée quand même. 175 yards au sol, 182 yards dans les airs. C'était une attaque de Green Bay équilibrée. Pour... Ouais. Et quand elle l'est depuis le début de l'année, ça gagne. C'est aussi simple que ça, non?
Ouais, c'était pas gagné en plus, hein, parce qu'ils perdent. Enfin, il y a eu un petit. Il y a Aaron Jones qui sort assez souvent dans ce match-là. Donc, c'est sûr, pour installer un certain rythme dans la situation actuelle, c'est pas top. Et d'ailleurs, ça a un peu coïncidé justement avec la longue période où Green Bay était ou derrière ou un peu au coude à coude. Bon, c'est là où on voit que ça fait du bien aussi d'avoir une défense du côté de Green Bay, là où du côté de Chicago, c'est peut-être plus compliqué de réussir des stops défensifs dans le money time, comme on l'appelle. Donc voilà, Green Bay est un poil plus équilibré, donc arrive à faire la différence sur ce match-là. Après, est-ce qu'on est totalement rassuré chez les Packers au sortir de cette rencontre? J'en suis pas persuadé.
Non, on est à 5-8, Raphaël. On continue quand même de se diriger vers une fin de saison. On se dirige doucement vers le moment où ils seront éliminés des playoffs et où on testera Jordan Love.
Bah, je suis même pas sûr que tu testes Jordan Love.
Rodgers s'est dit ouvert à l'idée maintenant. Alors c'est bon.
Non, Matt LaFleur, il a dit je veux Aaron Rodgers de retour la saison prochaine. Après, ils peuvent espérer. Je sais pas s'il est free agent à l'issue de la saison. Peut-être qu'ils peuvent espérer trouver un. Je parle de Jordan Love. Hein.
Ah
oui, pour le transfert.
Oui, voilà, pour essayer de trouver un partenaire d'échange ou ce genre de choses. Ils partent de loin quand même.
Un petit mot pour le courage de Justin Fields. Mais pour le coup, alors Justin Fields, il réussit un de ses meilleurs matchs à la passe. 20 sur 25, 254 yards. Le problème, c'est que sur les 5 passes qu'il ne complète pas, il y en a 2 qui vont chez l'adversaire. Donc, est-ce que la conclusion, Raphaël, c'est qu'il vaut mieux qu'il court?
C'est dur comme conclusion, et j'espère pas que ce soit la conclusion, parce que sinon ça veut dire que Chicago n'ira pas très loin pendant longtemps, parce que ça va être compliqué s'il faut pas passer avec ton quarterback. Non, je crois pas que c'est ça. Là, c'était son match de retour, il y a eu quelques erreurs de lecture. La première mi-temps est bonne à la passe, hein. C'est vraiment les deux derniers drives en plus sur lequel ça craque.
En plus, premier match en Darnell Mooney, non?
Ouais, premier match sans Mooney. Bon, c'est pas idéal. C'est pas forcément dans la marge de progression qu'il avait entrepris il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'est peut-être un petit pas en arrière, j'ai envie de dire.
S'inquiète pas.
Enfin, ils ont pas le choix. Je veux dire, à partir du moment où tu as misé sur lui, il faut continuer à le faire progresser à la passe et investir dessus.
Très bien. Greg, un dernier mot, pas inquiet pour Justin Fields?
Bah, si on arrive enfin à investir sur la ligne offensive, ce serait bien. Il y a beaucoup de choses quand même sur lesquelles faut investir offensivement, parce que receveur, ligne offensive, c'est sûr que voilà, mais en tout cas, la progression qu'on note depuis des semaines et des semaines, malgré le bilan peu flatteur et les défaites successives des Bears, elle est là. Donc voilà, je rejoins Raph, faut pas forcément rougir à l'idée de le faire passer plus que ça.
Eh bien, c'est comme ça que se termine l'épisode 552 du podcast Touchdown Actu. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des notes et des avis sur les applis de podcast, évidemment. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi aller sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui sont joints à la liste cette semaine, parce qu'il y avait des nouveaux sous-verts, des nouveaux stickers, le calendrier qui s'était ajouté il y a quelques temps. Ce qui veut dire qu'il y a plein de gens. Je fais la liste. Jordan Horry, Romanitou62, Tom, Alicia, Frikazoid, Greg Alstott, Noctis, Chris14, Predrag Vlaovic, Grumpy, Miami Niners, Mr. Burp, Rukinho, Quentin, FX, Thomas, David, Sinsiz, Francis D, Riton52, Vincent, Panther of Steeler, Watto Sebulba, GGN37, Champio, Peyo, Steven, Rémi Guillotin, Lille Molikou et Pébart. Voilà, longue liste. Bah, y a plein de bons goodies en ce moment, hein. Donc faites-vous plaisir. On a rajouté les sous-verts années 70 sur le site. Je crois qu'ils sont... Oui, ils sont en ligne au moment où vous écoutez l'émission. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, vous retrouvez tout ça. Merci beaucoup, messieurs.
C'est un plaisir.
On se retrouve donc demain pour la preview avec Victor. Ensuite, ce sera la draft. C'est quand votre mock draft en direct sur Twitch, Greg?
Ah, tu fais bien d'en parler, ouais, justement. Donc, c'est mercredi soir, donc sur Twitch, donc le mercredi 7 au soir, à partir de 18h30.
Et ben voilà, donc les gens téléchargent cette émission le mercredi matin et ils vous écoutent sur twitch.tv/tdactu mercredi, donc à 18h30. Merci beaucoup, Greg. On va parler donc des quarterbacks. Ce sera top 2 quarterbacks, hein, c'est ça?
Ah, pas sûr. Ouais. Le premier choix sera un quarterback qui a 99% de chance. Le deuxième, parce que pour l'instant, c'est les Chicago Bears qui l'ont, hein, et on s'appuie sur le choix des drafts actuels.
Pas de trade dans cette mock?
Non, pas encore, non.
D'accord.
On fait déjà une mock avant la fin de la saison régulière. On va pas pousser le vice. Surtout que tout le monde n'est pas encore inscrit. Donc, voilà.
Ah, bah, mais c'est
On commence doucement. On va piano.
Ouais,
va
mais c'est bien. Ça fait découvrir aux gens comme moi qui n'ont pas du tout suivi. Vous allez nous faire découvrir les gens. C'est une première approche. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Raphaël. TDActu.com pour tous les liens, évidemment, pour suivre le podcast sur toutes les plateformes. Vous avez l'habitude, Spotify, Deezer, Apple, RSS, Podcast Addict, Pocketcast. Tout, on est partout. Twitter à TDActu, Facebook à TDActu, Instagram à TDActu en entier, TikTok à TDActu. Merci beaucoup. Je l'ai dit, on se retrouve dès demain pour la preview de la semaine avec Victor Roulier. On parlera forcément des 49ers et de Brock Purdy. Ciao, ciao.
Jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliato risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.